7h50, vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102.1. On est avec vous jusqu'à 10h. Je parle d'une belle façon de commencer une semaine de 4 jours. De commencer une semaine tout court. Notre chroniqueuse politique est avec nous en studio, Jacinthe Eve Harel.
Oui, puis j'ai invité Jacinthe pour venir nous parler de comment ça va à Québec de façon économique. Parce qu'on parle tout le temps recul du PIB de 0,4%, bah, augmentation seulement de 1,2% du taux d'emploi. Puis là, je me dis toujours, comment une mairie peut stimuler une ville? Puis j'ai pas la réponse à ça.
On va en jaser avec Jacinthe Eve qui est avec nous en studio. Ben, de un, comment tu vas?
Ça va bien, merci.
De deux, est-ce que la situation économique qu'on a ici à Québec est à la hauteur d'une capitale nationale?
Non, c'est inquiétant.
Tiens-toi!
En partant, bingo!
Non, mais on a du potentiel et on a démontré dans le passé qu'on est capable d'être à la hauteur d'une capitale. Mais là, on a pris du recul, alors c'est le temps d'ajuster le tir. On peut regarder l'histoire de la capitale nationale, l'histoire de Québec et l'histoire récente. Là, on n'ira pas trop loin parce qu'il y a toujours des circonstances qui expliquent les réussites ou les échecs. Mais si on remonte à l'administration de Régis Labeaume, l'administration précédente, donc Régis Labeaume qui était maire de Québec pendant 14 ans, donc de 2007 à 2021, c'est une belle fenêtre pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là et pourquoi en ce moment la situation nécessite là, des interventions avant qu'on dégringole davantage. Sous Régis Labeaume, la ville de Québec était en croissance économique constante. Et il y a un article, une étude du Conference Board du Canada qui est sorti en février cette année 2024 pour dire qu'en 2023, la ville de Québec avait connu une décroissance et c'était la première fois en 20 ans que Québec affichait un recul au niveau de son PIB. Donc en 2023, notre PIB a reculé de 0,42% et ça nous classe la dernière des villes canadiennes en termes de croissance du PIB en 2023. Donc, ça indique
jamais,
quelque chose.
C'est jamais
chose.
Bon être dernier sur la liste.
Pas là. Du tout. Et si on compare, là, on peut se dire, ouais, mais là, on n'est pas Toronto, on n'est pas Vancouver. Mais si on compare, là, Winnipeg, ouf, qui n'est quand même pas Toronto ni Vancouver,
non,
a eu une croissance de 2,59%. Edmonton a eu une croissance de 2,81%. Et Saskatoon, 3,84% de croissance en 2003. Donc, 2023, je veux dire. Donc, il y a vraiment un recul important qui est préoccupant.
Qu'est-ce qui explique ce recul-là? Puis, tu sais, en même temps, je te posais la question, qu'est-ce qui expliquait les excellentes performances de Québec sous Régis Labeaume?
Dans le fond, qu'est-ce qui bug?
C'est ça.
Qu'est-ce qui bug?
T'as entièrement raison. Qu'est-ce qui bug?
Bien, justement, c'est un exercice qui amène nécessairement à dire pourquoi dans les 20 dernières années, ça se passait bien, on était en constante croissance, pourquoi tout d'un coup ça bug, et comme vous dites. Et ce qu'on remarque, c'est que Régis Labeaume était un hyperactif. Était un hyperactif et était son obsession à lui, c'était les gens, l'entrepreneuriat. Il était obsédé par l'entrepreneuriat. Là, on n'a pas nécessairement en ce moment une administration municipale qui est obsédée par l'entrepreneuriat. On pourrait plutôt dire qu'on a une obsession environnementale en ce moment.
Environnementale, mobilité.
Exactement. Alors, une obsession pour l'entrepreneuriat et avec un maire hyperactif, hyper impliqué, hyper enraciné dans sa communauté d'affaires, bien, ça donne un maire qui est hyperactif sur plusieurs aspects de l'économie, plusieurs strates de l'économie. Parce que pour qu'une économie soit vivante, il faut qu'elle soit diversifiée. Régis Labeaume a misé beaucoup sur l'innovation en faisant des projets d'innovation avec l'Université Laval, notamment pour permettre aux chercheurs de l'Université Laval de se lancer en affaires, de lancer des entreprises basées sur les recherches et à s'assurer d'avoir des pôles de connexion entre l'entrepreneuriat et la recherche. Donc, il a travaillé avec des partenaires. Il a travaillé énormément avec des partenaires. C'est ce qu'on peut dire aussi qui était la clé de son succès. Il était très près du gouvernement provincial aussi, très près de Jean Charest. Il était capable de faire débloquer des projets. Donc, au début de son administration, c'est lui qui a sauvé le 400e de Québec qui s'en allait nulle part. Et le 400e, ben, c'est un grand événement d'envergure qui a amené aussi des investissements majeurs dans des infrastructures. Donc, des infrastructures pérennes comme la promenade Samuel de Champlain, par exemple, qui fait en sorte que ben, maintenant, on a une ville plus belle, plus attrayante, mais qui a aussi permis d'avoir une belle fenêtre, une belle vitrine en faisant du 400e de Québec une belle vitrine de, mm-hmm. de visibilité pour la ville de Québec. Donc, ça a permis aussi d'attirer plus de tourisme à moyen et à long terme suite à ça. Il a investi beaucoup aussi dans les infrastructures sportives. On pense toujours au centre Vidéotron. D'ailleurs, c'est une réussite hein, qu'il y a justement une façon de travailler en collaboration avec des alliés politiques de, d'autres administrations. En ce qui concerne la bombe, bien, il était près de Jean Charest. Il a permis aussi de construire le centre Vidéotron et de faire financer le centre Vidéotron à 50 % par le gouvernement du Québec. Donc ça, pour réussir des coups comme ça, il faut être proche du gouvernement. Il ne faut pas être en adversité. Il ne faut pas être en compétition. Il ne faut pas être dans l'adversité. Il faut plutôt se trouver des alliés. C'est peut-être ce qui nous manque en ce moment, des alliés dans les différents paliers de gouvernement. Parce que pourquoi on n'a pas d'alliés en ce moment? Peut-être qu'il y a des points de vue idéologiques trop opposés. Et Régis Labeaume avait à cœur le développement économique. Jean Charest avait à cœur le développement économique. Ils se rejoignaient là-dessus, sur cette vision-là. Donc, on a investi dans le centre Vidéotron, qui amène, même si on n'a pas eu d'équipe de hockey, ben, il reste que notre Colisée était en fin de vie et ne permettait plus d'accueillir des spectacles d'envergure. Et maintenant, ben, on accueille des spectacles d'envergure. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Il reste qu'on est à la hauteur du point de vue de notre offre de divertissement. On est à la hauteur d'une capitale nationale avec un centre Vidéotron, un amphithéâtre digne des années 2020. Centre de glace aussi, on l'oublie, mais le centre de patinage de vitesse au coin de Quatre Bourgeois et l'autoroute Henri IV, c'était un projet qui était cher à Régis Labeaume. Ça fait en sorte, ça a des grandes retombées. C'est notre anneau de glace qui a été finalement couvert, modernisé. Bien, en fait,
le fameux anneau de glace Gaétan Boucher qui était juste ouvert à l'hiver.
Puis ça a permis cette année de recevoir une épreuve de la Coupe du monde de patinage de vitesse qui était de retour après 32 ans. La dernière fois qu'on avait accueilli une épreuve de la Coupe du monde de patinage de vitesse, c'est en 1992. 32 ans plus tard, cette année, on a reçu 248 athlètes de 28 pays différents. C'est un événement d'envergure.
Ouais, ça prend ces événements.
Ça nous donne de la visibilité. Donc, l'événement en soi a des retombées économiques, mais par la suite, bien, ça fait bouger les choses. Parce que là, en ce moment, ce qu'on parle dans le monde du patinage de vitesse, c'est de recevoir le championnat du monde. Donc, il est question maintenant d'un événement encore plus d'envergure pour notre centre de glace. Alors, il a fallu des investissements diversifiés. Il a fallu qu'on pense au milieu sportif. Le stade TELUS aussi à l'Université Laval qui a été érigé sous l'administration Labeaume aussi, qui était cher à Régis Labeaume. Et bon, ça fait toujours controverse, mais il y a eu des élargissements d'autoroutes.
Oui, en effet.
Et même Laurentien. Si ça fait... On peut bien dire ce qu'on veut sur les élargissements d'autoroutes. Oui, ça prend du transport en commun, ça prend du transport structurant, mais il y a eu l'élargissement de l'autoroute Robert-Bourassa, il y a eu l'élargissement de l'autoroute Henri IV, l'élargissement de l'autoroute Laurentienne, qui a permis finalement... Tu sais, on
pense... Tous les axes nord-sud, là.
Tous les axes nord-sud, et ça ne bénéficie pas seulement aux automobilistes, ça bénéficie aussi aux camions, au camionnage, au transport de marchandises, et tout le secteur, tous les secteurs commerciaux, toutes les entreprises ont besoin, dépendent des livraisons, des systèmes de livraison pour s'approvisionner ou pour livrer à leurs clients. Alors, c'est important d'avoir des voies qui sont aussi roulables pour nos camions. Donc, voilà. Et en ce moment, ben, avec Bruno Marchand, ben, on a des taxes sur les chats, on a de la réglementation sur les poêles à bois, on augmente les taxes, on instaure des taxes sur la matriculation. On a déployé quand même le réseau cyclable à vélo, qui est intéressant, le vélo partage à vélo. Mais on est encore toujours dans cette même strate-là de mobilité, d'environnement, et on ne sort pas beaucoup de ça. On le voit d'ailleurs dans les missions qui sont effectuées par le maire, les thèmes de ces missions, les endroits qu'il va visiter, les gens qu'il rencontre, les entreprises ou les organisations qu'il va voir, c'est rarement à grande vocation économique. On est beaucoup dans sauver la planète, on est beaucoup dans la mobilité, dans les initiatives environnementales, ce qui est bien en soi, mais on ne peut pas avoir cette obsession-là lorsqu'on est un maire puis qu'on a justement des grands défis sur le plan économique. Et surtout quand on est maire d'une capitale, Ouais. Et là, ben, même, bon, là, il y a le dossier de tramway aussi qui n'a pas aidé à Bruno Marchand parce que là, on l'avait plus, ça a été mis sur la glace. C'est un projet qui va amener des investissements immobiliers, bien sûr, le long de l'axe du tramway, mais ça ne peut pas être le seul héritage ou la seule infrastructure dans laquelle on investit notre énergie ou notre argent.
Jacinthe, tu l'as effleuré, le sujet de la relation entre le municipal et le provincial. Ça prend ça. Ce n'est pas juste le municipal qui doit avoir ce fardeau-là ou ce poids-là sur les épaules de rendre la capitale nationale plus économique. Là.
Oui, exactement. Ça prend bien sûr le portefeuille du fédéral, le portefeuille du provincial, et en plus du portefeuille, ça prend des alliés. Donc, ça prend une relation ou une vision commune qu'un maire peut avoir avec les élus, notamment de Québec, pour être en mesure de mettre sur pied des projets. On va voir, le projet du tramway a repris. Il y a question...
Qui sera le maître à bord, c'est la grande question.
Et à l'automne, Geneviève Guilbeault va nous sortir la vision qu'elle a pour le troisième lien à Québec. Mon Dieu, j'ai dit troisième lien, je refuse d'utiliser ce terme-là, parce que pour moi, c'est pas un troisième lien, c'est un lien périphérique. C'est un nouveau lien. Pardon pour avoir dit troisième lien. Donc, on va entendre parler de ce projet-là, parce que ça aussi, ce fameux lien-là, interrive, va amener justement du développement économique interrégional. C'est bien au-delà de la ville de Québec, ce lien-là, on le sait tous. C'est un lien pour l'Est du Québec. On entend parler de ce projet-là jusque dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'il y a... la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des régions qui profiteraient d'avoir, notamment quand on parle de commerce, d'entreprise, même d'industrie, qui ont des livraisons, qui ont de la route à faire à leurs clients ou à leurs fournisseurs. Ils ont besoin d'avoir lien autoroutier qui est dégagé puis qui ne converge pas vers le centre-ville de Québec.
Je regarde le sondage de ce matin dans le Journal de Québec. Bon, Bruno Marchand à 39 % Sam Hamad à 37 % Je vois un Bruno Marchand qui travaille fort dans les coins pour que le projet QSL au port de Québec fonctionne. Parce qu'on est en train de vivre un tournant avec le maire, que lui-même se rend compte que là, sa piètre performance économique va être justement un très gros poids pour la prochaine campagne électorale?
Oui, tout à fait. Puis c'est bien qu'il se fasse talonner comme ça par un ancien ministre, finalement, de la Capitale-Nationale.
Qui a développé la ville avec Régis.
Oui, et qui a à cœur le développement économique. Il est issu du Parti libéral du Québec et de l'époque où le Parti libéral du Québec... Le Parti libéral du Québec l'est encore, a des préoccupations économiques plus fortes.
Il l'a juste mis un petit peu en dessous de la couverte pendant une couple d'années.
Oui, là, quand ils sont en train de le ressortir, c'est pour ça que je nuançais un peu. Mais oui,
merci
donc...
Merci à Dominique Anglade, le Parti libéral est très content de ça, dans cette petite parenthèse.
Oui, on revient vers une vocation économique, mais justement, se faire talonner comme ça par Sam Hamad, ça va permettre de nous faire voir le Bruno Marchand à son... un optimal rendement en matière de vision économique. On verra si se faire talonner comme ça va l'amener dans des sommets qu'on n'a jamais espérés ou si finalement il atteint rapidement son point de saturation. Mais certainement que là, il n'y a plus le choix de bouger puis de démontrer. On l'a vu avec la zone d'innovation. Ça, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais on avait une zone d'innovation qui était censée voir le jour, bien sûr.
Épouvantable,
on a perdu ça. Medicago qui est parti sans jamais aviser le maire Bruno Marchand. Ça, c'était un symptôme fort qu'on avait un maire qui n'était pas branché sur ses entreprises, sur ses industries, sur le monde économique. Donc, ça va être super important qu'il se branche sur le monde économique pour plus jamais qu'il y ait un Medicago qui annonce dans les médias, on ferme. Et le maire n'était pas au courant.
Ça te surprend-tu que Sam Hamad, sans avoir annoncé officiellement qu'il se lance dans la course de la mairie de Québec, soit si haut dans les sondages?
Ça me surprend pas parce que, justement, on était habitué à un Régis Labeaume On critiquait fortement Régis Labeaume, mais on était habitué avec un maire hyperactif, un maire qui avançait toutes sortes de dossiers d'envergure sur toutes sortes de plans, sur plusieurs plans en même temps. Et là, ce ralentissement-là et cette obsession presque
mono-environnement, là, je vais dire comme ça.
J'invente un nouveau mot.
Mais c'est pas grave, je l'adore.
Cette mono-vision, en fait, que je devrais dire.
C'est vrai.
Fatigue, et là, nous fait mettre mettre en relief tous les avantages ou toutes les qualités, parce que là, j'ai l'air d'encenser Régis Labeaume. Je le sais bien qu'il avait ses défauts. Je le sais bien qu'il n'était pas parfait. Il a commis des erreurs aussi, bien sûr. Mais...
Clotaire Rapaille.
Mais de voir ce contraste important-là nous permet d'apprécier davantage les réalisations et les qualités de Régis Labeaume en matière de développement économique. Et oui, bien sûr... De mettre un peu d'être en mode attente qu'il y ait un candidat qui se présente puis qui, finalement, nous ramène vers nos préoccupations terrain qui sont le développement économique, parce qu'une ville qui est une capitale nationale doit redevenir fière, doit continuer de se développer. On doit toujours être en mode croissance et non pas en mode stagnation.
En terminant, puis c'est sur un autre pan du sondage de ce matin dans le journal, Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, qui n'est pas connu par 56 % des répondants. Qu'est-ce que ça dit, un, sur Claude Villeneuve puis son travail, puis deux, sur la politique municipale à Québec?
Bien, ça dit qu'il y a de la place pour un nouveau joueur, d'où notre dernière intervention sur Sam Ahmad, parce que finalement, si l'opposition est si peu connue, si peu visible, si peu... elle est peut-être visible, elle est peut-être très active, l'opposition, mais elle n'est pas reconnue par les citoyens ou elle n'est pas ressentie ou elle ne marque pas les mémoires, elle ne marque pas les esprits, bien, ça veut dire qu'elle n'est pas assez forte, ça veut dire qu'elle n'est pas assez bruyante, ça veut dire qu'elle est peut-être plus conciliante. Est-ce qu'on a un Claude Villeneuve qui est trop politiquement correct dans les dossiers? Est-ce qu'il se démarque énormément de Bruno Marchand sur les grandes idéologies puis les grandes visions de la ville, où finalement on est plus dans des technicalités d'opposition, ce qui ferait une opposition plus faible. Mais certainement que ça laisse certainement voir qu'il y a de la place pour un autre joueur qui va se démarquer et qui va avoir un discours complètement contrastant comme un discours économique.
Jacinthe Avarel, c'est notre chroniqueuse politique. On adore jaser politique avec elle chaque semaine à Rage Against le matin. Puis merci pour cette analyse-là de la situation économique de la capitale nationale.
Merci beaucoup.
Vraiment une très belle discussion intéressante. Merci, Jacinthe.
On se souhaite du grand puis du ambitieux pour Québec.
Cha-ching. Okay, let's go.
Oui.
Let's go. On se parle la semaine prochaine?
Oui.
Sur les routes, Max?
Ouais, ben, juste mentionner, c'est encore le gros bordel dans le secteur des ponts pour passer de la rive sud à la rive nord, et également la petite mise à jour sur l'accident. Laurentienne-Sud, hauteur capitale, la voie de gauche qui est bloquée, les services d'urgence qui sont sur place.
Merci, Max. Courte pause. On revient tout de suite après. On va jaser avec l'entraîneur-chef des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini. On s'arrête de...